Bonsoir. Je vous disais la dernière fois que pour entrer dans le grand mystère de la charité fraternelle, ou si vous voulez, dans le sens profond du commandement de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, nous allions étudier les béatitudes. Elles expriment les sept ou huit manières de décliner le commandement de l'amour. Alors ce soir, nous allons regarder la première béatitude, Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Ou les pauvres d'esprit, le royaume de Dieu est à eux. Alors je commencerai par analyser le texte mot à mot, et puis ensuite on regardera ce que cela peut nous dire sur le plan de la charité fraternelle. Commençons par le premier membre de la phrase, Heureux les pauvres de cœur, et puis on regardera à la fin, car le royaume de Dieu est à eux. D'abord, il y a ce mot heureux. Je vais insister particulièrement ce soir sur ce mot, parce que il revient dans les huit béatitudes, il revient même neuf fois dans le texte. Et donc, on va le regarder plus précisément ce soir, comme ça on n'aura pas à y revenir à chaque fois. Pascal disait, tous les hommes cherchent d'être heureux, cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but, ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas. Et ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Alors cette phrase célèbre de Pascal dit bien, hein, notre désir d'être heureux, quoi qu'on fasse, on le fait d'une façon ou d'une autre pour être heureux. Mais voilà. Comme disait laconiquement Albert Camus, les hommes meurent et ne sont pas heureux. Nous ne sommes en tout cas jamais parfaitement, et c'est pourquoi nous nous plaignons bien souvent. Pascal encore le disait, tous se plaignent, princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, ignorants, saints, malades, de tout pays, de tous les temps, de tous les âges, de toutes conditions. Quelle est la dernière fois que vous vous êtes plaint? Peut-être il n'y a pas très longtemps. On passe souvent notre vie à se plaindre. Alors Jésus nous dit, heureux, heureux les pauvres d'esprit. Et sa toute première parole est donc heureux. Toute première parole de son tout premier sermon. Alors qu'est-ce que cela veut dire dans sa bouche? Qu'est-ce qu'être heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Pour essayer de l'expliquer, je vous propose de regarder trois mots, l'un latin, l'autre grec, et l'autre hébreu, trois mots qui se complètent pour nous permettre d'envisager ce qu'est le bonheur. Dans le mot français bonheur, vous entendez deux mots qui viennent du latin, bon, bonum, et augurium en latin qui désigne un présage. Le présage tiré de l'observation du vol des oiseaux à l'époque, et d'où provient notre mot augure. Donc bonheur, c'est la bonne augure. En vieux français, heure désignait d'ailleurs encore le présage, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs. Donc en français, bonheur, c'est la bonne augure. C'est donc l'idée de chance qu'évoque ce mot. Être heureux, c'est avoir bien de la chance. En grec ancien, le bonheur se dit eudaimonia. Alors ce terme est composé du préfixe e, qui signifie bon, et daimon, qui désigne un esprit protecteur, un génie. On parlerait peut-être aujourd'hui d'un ange gardien. Littéralement, eudaimonia désigne donc, pour les Grecs, le fait d'avoir un bon génie, un bon destin, une heureuse nature. Ça renvoie à l'idée d'être favorisé par les dieux, d'avoir un esprit bienveillant qui veille sur nous. On retrouve la même idée de chance ici. Mais cette fois avec l'impression que ça vient des dieux. On pourrait dire qu'être heureux, c'est être béni. D'où la traduction anglaise d'ailleurs des béatitudes qui dit souvent blessed are the poor, blessed are the meek, blessed are the peacemakers, etc. Et d'ailleurs, le mot grec utilisé par Matthieu ici n'est pas eudaimonia, mais makarios, ou au pluriel, makarioi, heureux, oi ptokoi, topnemati, donc heureux les pauvres d'esprit. Makarioi ne désigne pas un simple sentiment de contentement psychologique, mais un état de félicité objective. Être heureux ici, c'est être placé sous la bénédiction de Dieu, en situation de communion et de faveur auprès de lui. On pourrait traduire « comblé de la faveur de Dieu, vous les pauvres. Comblé de la faveur de Dieu, vous les doux, etc. » Alors en hébreu biblique, le bonheur se dit principalement par la racine « asher »,« ashré ». Le terme « esher » provient de la racine hébraïque « ashar », qui signifie littéralement « aller droit »,« progresser ». D'où la traduction étonnante de Chouraki, qui a traduit la Bible très très proche de l'hébreu. Il traduit « heureux » par « en avant ».« En avant, vous les pauvres. En avant, vous les faiseurs de paix. » Alors j'aime bien cette expression parce que ça montre que le bonheur n'est pas seulement un état, mais une action. Et effectivement, si vous attendez le bonheur comme un état, vous risquez d'attendre longtemps. Le bonheur est dans l'action. J'aime bien prendre l'image du sillon par rapport à un bateau. Tant que le bateau avance, le sillon suit. Mais si le bateau veut s'arrêter pour regarder le sillon, en profiter, il n'y a plus de sillon. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. Tant que nous sommes dans une action qui est bonne, nous sommes heureux. Et puis quand on veut s'arrêter et presque se gargariser du bonheur, ben, il disparaît, ou son imperfection est telle qu'on a l'impression finalement qu'on n'est pas heureux. Alors disons ceci pour résumer. En tant qu'État, le bonheur c'est une chance, c'est une bénédiction. Alors de ce point de vue, on pourrait dire que la recette du bonheur, c'est peut-être un état de joie, de paix et de lumière. Pour être heureux, il faut la joie et la paix. Et il faut les deux. Si vous avez la joie sans la paix, ça ne marche pas tout à fait. La joie sans la paix, elle est fébrile et puis elle est insécure parce qu'on se dit « mais est-ce que ça va durer ?» Hein, ce vers bien connu « autant suspend ton vol ». On a l'impression que le temps va nous ravir notre joie. On est heureux puis on se dit « ah, c'est trop beau pour durer ». Ça me fait penser à cette anecdote que j'ai parfois évoquée. Quand j'étais en Afrique, au Cameroun, on avait une grande cage avec deux petits singes. Et un jour, j'ai donné une papaye à ces singes. Et puis, il y en a un qui l'a pris. Il s'est mis dans un coin de la cage. Et puis, il était très inquiet. Sa tête faisait presque un 360 pour voir si l'autre n'allait pas lui prendre son bout de papaye. Et je me suis dit là, ah oui, il est joyeux, mais il n'est pas en paix. Et pour être vraiment joyeux, il faut en plus la sécurité. Il faut la joie et la paix pour le bonheur. Mais il faut ajouter aussi la lumière, parce que sinon on peut trouver la joie et la paix de façon artificielle. Pour l'enthousiasme, vous pouvez prendre de la cocaïne. Pour vous pacifier, vous pouvez prendre de la marijuana. Mais alors à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment dans la lumière. Vous avez une paix artificielle, un bonheur artificiel. Pour être réellement dans le bonheur, dans un état de bonheur, il va falloir trouver la joie, la paix et la lumière. Dans la liturgie, on nous parle des défunts et on prie pour qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Pourquoi pas commencer maintenant? Nous anticipons ici-bas l'état des bienheureux du ciel, qui est un état de joie, de paix et de lumière. Mais le bonheur, ici-bas, est dans l'action. Il faut agir. Et Jésus nous dit ce soir qu'il faut agir comme des pauvres de cœur, comme des pauvres d'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, la pauvreté ne rend pas heureux. Donc, c'est paradoxal. Que veut nous dire Jésus? Alors, regardons là le mot « pauvre de cœur ». Pauvre en français, ça vient de pauper, qui désigne celui qui a peu, non pas celui qui est misérable. Mais en grec, c'est plus fort. Les pauvres ptokoi, le mot qui est utilisé ici, sont les indigents, les mendiants, ceux qui n'ont rien et ne peuvent survivre que grâce aux aumônes qu'ils reçoivent. Ça correspond un petit peu à ce que la Bible hébraïque appelle les anavim, les courbés, les humiliés, ceux qui ploient sous le poids de la misère. Mais Jésus ne dit pas seulement heureux les pauvres, on ne voit pas en quoi la pauvreté, la misère pourrait être cause de bonheur. Il dit heureux les pauvres en esprit. Dans la Bible, on trouve souvent ce genre d'expression. En ajoutant ce complément, en esprit, Jésus indique qu'il s'agit non pas d'abord d'une pauvreté matérielle, d'une pauvreté de fait, mais d'une pauvreté spirituelle. Donc il désigne une attitude intérieure. Et nous allons voir que c'est précisément cette attitude de l'esprit, cette attitude du cœur, qui va nous ouvrir au grand mystère de la charité fraternelle. Ça va impliquer de faire de la place à l'autre, de prendre soin de lui avec générosité et de se décentrer de soi-même. La pauvreté nous permet de faire de la place à l'autre. Je partirai d'une image. Les mystiques juifs, dans la Kabbale notamment, disent que Dieu s'est retiré pour créer le monde. Ils appellent ça le Tzimtzum, la contraction de Dieu. Et on comprend, Dieu est infini, et comme il est infini, il est partout présent, il est omniprésent. Et du coup, on ne voit pas comment il pourrait faire de la place à un monde. Alors, on dit qu'il doit se retirer en lui-même, comme créer du vide pour que le monde puisse exister. Hölderlin l'a exprimé en poésie, il dit « Dieu a créé l'homme comme la mer a fait les continents en se retirant ». Donc le Tzimtzum, c'est la manière dont Dieu nous fait de la place pour que nous puissions exister. Alors c'est une image, mais cette image est belle pour nous faire comprendre un aspect très important de la charité fraternelle. Il faut faire de la place à l'autre. Et d'ailleurs, exister pour nous a commencé quand une femme nous a fait de la place en elle. À travers elle, dès le premier instant de notre conception, Dieu nous a offert un espace. Peut-être a-t-il fait le corps de la femme pour montrer que aimer l'autre, c'est lui donner de l'espace. Dieu, en tout cas, nous fait de la place. En un sens, Dieu est le premier à être pauvre d'esprit. Être pauvre de cœur, c'est faire de la place à l'autre. On pourrait dire, c'est lui faire l'hospitalité, lui donner l'hospitalité. Jésus a été particulièrement sensible à l'hospitalité. Il aimait venir chez Marthe et Marie. Il a aimé quand les pèlerins d'Emmaüs lui ont dit « Reste avec nous, le soir approche ». À Noël, s'il a reposé dans une mangeoire, c'est parce qu'on ne lui a pas fait de la place. Saint Jean écrira « Il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu ». Donc Jésus est très sensible à cette dimension de l'hospitalité. « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». Dira le roi au dernier jour, ou à l'inverse, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Donc, être pauvre de cœur, c'est donc faire de la place à l'autre, c'est l'accueillir joyeusement chez soi, malgré son altérité, malgré sa différence, malgré son étrangeté. Et du coup, c'est le laisser être ce qu'il est. Faire de la place à l'autre, c'est aussi lui dire, il est bon que tu sois toi-même. Il est bon que je ne mette pas la main sur toi, je n'ai pas à te changer pour que tu puisses exister. Être pauvre d'esprit, c'est laisser l'autre libre. Ici, le vieux conte de la Belle et la Bête peut nous enseigner merveilleusement. Vous vous souvenez de l'histoire, un riche marchand a perdu sa fortune, il a dû s'installer à la campagne avec ses enfants, et puis l'une de ses filles, qui s'appelle Belle, est douce et vertueuse, contrairement à ses sœurs. Un jour, il marche dans la forêt, il se perd et il découvre un château mystérieux. Et là, il trouve une rose dans le jardin, il l'accueille pour sa fille Belle. Mais le maître des lieux, une bête terrifiante surgit et exige qu'il paie ce vol par sa vie. Finalement, la bête accepte que l'une de ses filles prenne sa place. Et Belle, par amour filial, se sacrifie et va vivre au château. La bête la retient captive et chaque soir, elle lui demande de l'épouser. Mais la belle refuse, bien que progressivement, elle s'attache à lui. Et puis un jour, la bête lui permet de rentrer chez elle. Et c'est un geste qui lui coûte parce que la bête prend le risque de ne pas voir revenir la belle. Mais son amour pour elle l'a finalement rendu pauvre d'esprit, lui a permis de laisser l'autre libre. Et une fois rendue à sa liberté, eh bien la belle décide de revenir. Elle trouve alors la bête mourante de chagrin. En réalisant qu'elle l'aime, elle accepte de l'épouser. Aussitôt, On le sait, la bête se transforme en prince charmant. Il était victime d'un sortilège qui ne pouvait être brisé que par un amour sincère. Voyez ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'amour véritable ne peut naître que dans la liberté et la reconnaissance de l'autre tel qu'il est. C'est tout l'inverse de la jalousie. La jalousie, c'est vouloir posséder le cœur de l'autre, et en fait, c'est le moyen plus sûr de le rendre exsangue. Sans pauvreté de cœur, il n'y a plus d'amour. Ça peut faire comprendre aussi quelque chose que vous avez peut-être noté dans l'Écriture. À un moment, Dieu dit à Abraham, « Tu n'appelleras plus ta femme Sarai, mais Sarah. » On se demande, mais quelle différence il y a entre Sarai et Sarah ? Il y a une toute petite différence, mais qui change tout. Dans le mot hébreu Sarai, vous avez un yod à la fin, le aï, aï, vous voyez ? Alors que dans Sarah, il n'y a plus ce yod. Or, le yod en hébreu, quand vous le mettez à la fin d'un mot, ça désigne le possessif. Par exemple, dans le psaume 22, vous pouvez dire le berger, c'est Roer, mais si vous dites Adonai Roi, le fait de mettre un yod à la fin signifie le Seigneur est mon berger, et non pas seulement un berger. Donc le yod final désigne la possession. Alors Dieu dit à Abraham, tu ne l'appelleras plus Sarai, tu l'appelleras Sarah. Comme s'il était dépossédé, elle n'est plus appelée ma princesse, elle est appelée princesse. Elle ne t'appartient plus, elle est. Abraham doit apprendre la pauvreté de cœur. On enferme trop facilement ce qu'on aime. On veut les posséder, on veut les garder, on veut les retenir. Mais l'amour n'est pas une cage. L'autre nous échappe toujours. Alors dans nos relations fraternelles, il faudrait se souvenir de cette parole. Nous ne possédons pas l'autre. Et une autre parole dont on peut se souvenir, c'est lorsque Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent, il lui dit « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Eh bien, on pourrait dire que mon frère, ma sœur est une terre sainte. Je retire les sandales de mes pieds, je ne foule pas cette terre comme si elle m'appartenait. Ça va supposer en même temps la joie. Plus vous avez de la joie, plus ça devient naturel. Parce que la joie est par essence spacieuse. Quand vous êtes joyeux, vous avez le cœur dilaté. À l'inverse, la tristesse, elle contracte. Donc plus vous allez être joyeux, plus la pauvreté va être facile. Ou plus vous allez être pauvre, plus la joie va être facile. Je pense que ça marche dans les deux sens. Pensez à Saint François d'Assise. Il poverello, on le dit le petit pauvre de Dieu, mais en même temps, on le sait joyeux. Ça va ensemble. J'ajouterais qu'être pauvre face à l'autre, c'est pas seulement le laisser libre, c'est aussi voir sa valeur, la richesse de l'autre. J'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry quand il dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Voir la valeur de l'autre. Comme Dieu dit à son peuple dans Isaïe, « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » Voilà ce que l'autre devrait sentir si nous étions vraiment fraternels. « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » C'est tout le contraire de Caïn. Peut-être que Adam et Ève auraient dû choisir un autre nom pour leur fils plutôt que de l'appeler Abel. Parce qu'en hébreu, c'est un nom quand même très particulier. Pardon. Abel, Evel en hébreu, ça vient de la racine Baal qui signifie la négation. Donc littéralement, Abel, ça veut dire le ne pas. Très bizarre d'avoir appelé son fils comme ça. On pourrait dire Abel, ça veut dire buée, poussière, insignifiance, celui qui existe à peine, vanité. C'est d'ailleurs le mot qui apparaît dans la fameuse phrase de Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Evel, Avelim, Chakol, Evel. Donc, Evel, c'est tout ce qui est voué à disparaître. Eh bien, quand Caïn regarde son frère, il le regarde comme ça, comme quelqu'un qui est voué à disparaître. C'est tout l'inverse de la charité fraternelle. La charité fraternelle dit au contraire, il est bon que tu existes, tu as du prix à mes yeux. Alors ça va impliquer de faire de l'espace à l'autre, de le laisser être, mais pas seulement, de prendre soin de lui. Une mère ne se contente pas de porter son enfant, elle le nourrit, elle lui donne tout ce qu'elle peut. Voilà l'aspect le plus concret de la béatitude des pauvres. Être pauvre, ça implique aussi d'être généreux à la suite du Christ. C'est tout donner sans rien garder pour soi, comme une mère qui donne tout à son enfant. Thérèse de Lisieux l'a dit comme ça, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » C'est ce qu'a fait Jésus, qu'on compare souvent au pélican. Connaissez cette légende du pélican? On dit que revenant à son nid et découvrant ses petits inanimés suite à l'attaque d'un rapace, l'oiseau criait alors sa douleur à tous les horizons, se penchait sur les petits corps ensanglantés et avec son bec, déchirant sa poitrine, les arrosait de son sang. Alors sous la chaude sève paternelle, les pélicanos morts frémissaient bientôt, reprenaient vie, battaient joyeusement des ailes et se blottissaient amoureusement dans le duvet du père à qui deux fois ils devaient la vie. Aimer, c'est tout donner soi-même. Se donner soi-même, c'est comme le pélican percer son cœur pour donner son sang aux autres. Dans cette légende, l'oiseau s'ouvre la poitrine pour sauver ses petits. Le sang de son père devient leur nourriture. C'est l'image du Christ, le divin pélican qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais pour ça, il faut être très pauvre. Comment parler de la béatitude des pauvres sans penser aussi au jeune homme riche? Vous vous souvenez de ce passage en Marc 10. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur lui son regard et l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui à ces mots devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors reprenons ce passage. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Voilà la demande du jeune homme riche. Il parle d'héritage. Rien que dans sa demande, il y a quelque chose qui est bancal. Il a un grand désir, un désir noble, mais c'est un désir d'avoir, c'est un désir de tenir entre ses mains ce qu'il espère, c'est un désir d'hériter, comme on reçoit un bien. Il est dans la logique de l'avoir. Alors Jésus essaye de le déplacer. Comme à son habitude, il lui répond par une autre question. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» En fait, il veut qu'il réfléchisse et qu'il passe de la recherche de perfection, qui est toujours une recherche d'acquisition, à la recherche de la bonté, qui est une recherche de perte, de diffusion, de don. Et Marc souligne que Jésus porta son regard sur le jeune homme riche et l'aima. Pourquoi ? Parce qu'il voit son zèle, il voit son désir. Il est touché. Il y a quelque chose dans le désir de cet homme qui est touchant, même si c'est un désir qui est un petit peu déplacé, puisque c'est un désir d'acquisition. Alors à ce moment-là, il le regarde et lui dit, « Une chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Ça me fait penser à cette réponse de Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était maîtresse des novices. Un jour, il y a une jeune sœur qui lui dit, « Ah, quand je pense à tout ce que j'ai à acquérir pour vous ressembler. » Alors, elle a ressenti sans doute un peu de flatterie, elle a peut-être senti de la jalousie de la part de cette sœur. Toujours est-il qu'elle lui répond en souriant, « Dites plutôt à perdre. » Ce n'est pas tout ce que j'ai à acquérir, mais dites plutôt à perdre. Bienheureux les pauvres de cœur. La finale de la rencontre avec le jeune homme riche et pathétique. À ces mots, l'homme devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait grand bien. Il s'en va tout triste, il était riche, trop riche. C'est un des moments les plus tristes de l'évangile, peut-être. L'homme s'éloigna, Jésus le regarda partir, et Jésus le laissa libre. Il n'a jamais retenu personne. Il dit juste comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors j'espère qu'un matin, loin de tous, ce jeune homme a finalement tout donné et qu'il est parti à la suite du Christ, le cœur plus léger. En tout cas, ce jour-là, Jésus ne l'a pas retenu. Il avait le cœur trop pauvre pour retenir les gens. Il n'avait jamais retenu personne. Il a sans doute prié simplement pour ce jeune homme. Pourquoi est-on aussi attaché aux richesses? Je pense qu'il y a une triple raison. Il y a un psychologue suisse, Charles Audier, qui disait que nous avons trois sentiments du moi qui nous habitent. Le sentiment de culpabilité, le sentiment d'oppression, le sentiment d'angoisse. Et les trois remèdes à ces sentiments sont, à la place de la culpabilité, l'impression qu'on a de la valeur, le sentiment de valorisation. À la place de l'oppression, le sentiment qu'on est autonome, le sentiment de liberté, d'autonomie. À la place de l'angoisse, le sentiment de sécurité. Alors, si vous regardez bien, la richesse, l'argent en particulier, nous donne immédiatement, quoique de façon artificielle, ces trois sentiments. Quand on a de l'argent, eh bien, on se sent en sécurité. Quand on a de l'argent, on se sent autonome. Quand on a de l'argent, on se sent valorisé. Sauf que c'est artificiel. Alors Jésus nous parle plutôt de la pauvreté de cœur. Il va falloir trouver sa valorisation, son autonomie et sa sécurité en Dieu seul. Et Jésus lui-même, le modèle de la pauvreté de cœur. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et que Dieu, paradoxalement, est pauvre de cœur. Alors vous allez me dire, mais non, Dieu est parfait, il ne lui manque rien. Eh oui, mais il est bon. Tout ce qu'il a, il le donne. Pour prendre une image, il me semble qu'un des meilleurs symboles de Dieu, finalement, c'est la couleur blanche, qui n'est pas une couleur, si on veut, qui renvoie toutes les couleurs. Elle ne garde rien de la lumière, elle la renvoie. Un peu comme une mère qui donne tout à ses enfants. Eh bien, Dieu est comme ça. J'aime bien cette phrase de François Varillon qui dit: Dieu est la pauvreté absolue. En lui, il n'y a pas de trace d'avoir de possession. Il ajoute: si votre raison vacille devant une telle perspective, dites alors: Dieu est riche, mais ajoutez immédiatement: riche en amour et non pas en avoir. Or, riche, être riche en amour et être pauvre, c'est exactement la même chose. La pauvreté matérielle de Bethléem et de Nazareth n'est que le signe d'une pauvreté beaucoup plus profonde de Jésus, la pauvreté immense de Dieu, infinie, absolue, sans quoi nous ne pouvons dire que Dieu est amour. La richesse de Dieu, c'est son amour, mais cet amour le pousse à se dépouiller de lui-même. C'est ce que dit saint Paul d'ailleurs lorsqu'il parle de l'incarnation. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est vidé de lui-même. S'est anéanti. C'est ce qu'on voit à Noël, c'est ce qu'on voit encore plus à la croix. Donc, en étant pauvres de cœur, nous imitons Dieu. Et c'est pour cela que Jésus ajoute: car le royaume des cieux est à eux. Alors, la notion de royaume ne nous parle plus beaucoup aujourd'hui, il faut l'avouer. À l'époque, il y avait des rois et des royaumes, donc c'était plus parlant. Alors, disons que le royaume, c'est là où règne le roi. Et donc pour nous, le royaume, c'est là où Dieu règne. Alors le sens de le royaume de Dieu est à eux, ça veut dire heureux les pauvres de cœur, car Dieu règne dans leur vie. Vous serez bénis, vous serez heureux si Dieu règne dans votre vie, s'il règne dans votre cœur, s'il règne dans votre esprit. Et pour cela, il faut être pauvre de cœur. Il faut accueillir Dieu, lui faire de la place. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut prendre soin de Dieu. Prendre soin de Dieu dans notre cœur. Prendre soin de Dieu dans le cœur de notre frère, dans le cœur de notre sœur. Et si tu fais cela, tu seras heureux. Alors évidemment, c'est une phrase très paradoxale qui pousse le paradoxe jusqu'à l'extrême. Mais il y a une mystique, Etty Hillesum, qui en a eu l'intuition. Alors elle n'était pas chrétienne officiellement. Elle avait eu une vie un petit peu bancale, je ne sais pas que dire. Et puis elle s'est progressivement ouverte à Dieu alors qu'elle était notamment tout proche d'être déportée à Auschwitz dans des conditions terribles. Mais elle a dans son journal des phrases incroyables où elle dit au Seigneur « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. » Elle ajoute même « Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. » Ou encore « Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui abrite en nous. » Alors, c'est ici le paradoxe est poussé à l'extrême. Bien sûr que Dieu prend soin de nous, mais on voit bien ce qu'elle veut dire. « Je vais prendre soin de Dieu dans le cœur de mon frère. Je vais prendre soin de Dieu dans mon cœur. Je vais prendre soin de cette habitation. » Et pour ça, je vais être pauvre. Je ne vais pas mettre la main sur lui. Je ne vais pas mettre la main sur le cœur de mon frère. Ôte tes sandales. La terre que tu foules est une terre sainte. Alors, vous noterez que cette béatitude est au présent. C'est la seule avec la dernière, la huitième, qui est au présent. Les autres sont au futur. Bienheureux les miséricordieux, ils seront consolés. Bienheureux, enfin, ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Les autres béatitudes seront au futur. Ici, c'est au présent, comme pour nous dire que dès que tu es pauvre, dès que tu es pauvre, eh bien, Dieu commence à régner dans ton cœur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la toute première béatitude. Toutes les béatitudes sont ouvertes par la pauvreté. Alors, je termine sur cela. Comme chaque semaine, on peut se poser des questions pratiques. Oui, de semaine en semaine, nous allons progresser, aller de la béatitude des pauvres à la béatitude des pacifiques. Et on pourra chaque semaine essayer de faire porter un point d'effort sur la béatitude que nous avons regardée ensemble. Posez-vous ces questions peut-être. À qui allez-vous faire de la place cette semaine? Qui pourriez-vous inviter? À qui allez-vous donner l'hospitalité? À l'égard de qui pourriez-vous être généreux cette semaine? Voilà des petites questions, vous en avez peut-être d'autres qui pourraient rendre cette béatitude très concrète pour vous au cours de cette semaine.